Vous êtes bien sur Radio Orient, le magazine d'information. Nawal Alamouchi. Plus d'un million de fidèles musulmans sont arrivés en Arabie Saoudite pour le Hajj, grand pèlerinage qui débute aujourd'hui. Les autorités ont mis en place des mesures de lutte contre les effets néfastes de la chaleur. Nous y revenons plus en détail dans notre tour d'horizon de l'actualité. Les exportations d'armes d'Israël ont atteint 14,7 milliards de dollars en 2024, un niveau record selon le ministère de la Défense, malgré les critiques internationales concernant la guerre menée par le pays à Gaza depuis près de 20 mois. Et en France, suite au meurtre d'Hichem Mirawi, un homme de nationalité tunisienne tué ce samedi par un ressortissant français, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé un crime raciste et barbare. Dans notre point actualité à Gaza d'abord, la défense civile a annoncé la mort de 12 personnes aujourd'hui, dont des femmes et des enfants, dans une frappe israélienne près d'une école dans la ville de Khan Younes. Et nous l'avons évoqué dans les titres, les exportations d'armes d'Israël ont atteint 14,7 milliards de dollars en 2024, un niveau record malgré les critiques internationales concernant cette guerre menée par le pays à Gaza depuis près de 20 mois. Et toujours au Proche-Orient, 5 Syriens issus de la minorité Alaouite ont été retrouvés morts 2 jours après avoir été arrêtés près de Damas par les forces de sécurité, selon une ONG. La minorité musulmane Alaouite, dont est issu l'ex-président Bachar el-Assad, est la cible d'exaction depuis qu'il a été renversé en décembre par une coalition de rebelles sunnite dirigé par l'actuel dirigeant Ahmed al-Sharih. Et dans le reste de l'actualité internationale en Corée du Sud, le nouveau président élu Lee Jae-myung a promis lors de son discours d'investiture de tendre la main à la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Il s'est engagé à renouer le dialogue avec Pyongyang. Et dans un tout autre volet, Donald Trump poursuit son offensive commerciale. Jusqu'ici taxé à hauteur de 25%, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis vont atteindre 50% dès aujourd'hui. Et concernant la guerre en Ukraine, les conditions de paix proposées par Moscou lors des discussions de lundi à Istanbul sont des ultimatums inacceptables pour Kiev. Ce sont les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a appelé à la tenue d'une rencontre avec Vladimir Poutine et Donald Trump. Et Vladimir Poutine qui a accusé l'Ukraine de vouloir un cessez-le-feu pour se réarmer et renforcer son armée. Dans l'actualité au Maghreb, l'écrivain algérien à succès Yasmina Kadra a plaidé auprès du président algérien Abdelmajid Tebboune la cause d'un autre écrivain, le franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré depuis 200 jours en Algérie. Et au Maroc, un franco-marocain de 24 ans recherché par la justice française a été arrêté à Tanger, soupçonné d'avoir commandité une série d'enlèvements dans le milieu des crypto-monnaies. En France maintenant, 13 personnes hostiles à la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour des injures racistes visant l'artiste franco-malienne. Les 13 prévenus sont proches du groupe identitaire Né Natif, issu du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Et dans un tout autre volet, un homme soupçonné d'avoir brûlé un Coran dans une mosquée de Villeurbanne près de Lyon dans la nuit de dimanche à lundi a été interpellé et placé en garde à vue. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au tour d'horizon de l'actualité. Plus d'un million de fidèles ont commencé ce mercredi les rituels du grand pèlerinage musulman à la Mecque. Et sous des températures atteignant les 40 degrés, les autorités saoudiennes redoublent d'efforts pour éviter une répétition du drame de l'an dernier. Les détails avec Nadia Bencher.
Cette année, le pèlerinage, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, se déroule sous haute surveillance. Les pèlerins ont commencé par le rite du Tawaf, tournant autour de la Kaaba au cœur de la grande mosquée de la Mecque. D'autres se sont rendus à Mina, une vallée proche, où ils passeront la nuit dans des tentes climatisées avant de se diriger vers le mont Arafat, étape centrale du Hajj. Environ 1,4 million de fidèles sont attendus pour accomplir cette série de rites quotidiens. L'un des cinq piliers de l'islam. Les autorités saoudiennes ont mis en place des mesures strictes pour lutter contre la chaleur extrême après la tragédie de l'an dernier où plus de 1300 pèlerins avaient péri sous des températures atteignant plus de 51 degrés. Cette année, plus de 40 agences gouvernementales et 250 000 fonctionnaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des pèlerins. Les zones ombragées ont été étendues, des milliers de soignants supplémentaires déployés et plus de 400 points d'eau fraîche installés. Les autorités utilisent également des technologies d'intelligence artificielle et des drones pour surveiller et gérer les foules. Cependant, les autorités rappellent les sanctions sévères pour les pèlerins non autorisés, avec des amendes doublées et une interdiction d'entrer dans le royaume pour 10 ans. Ces mesures visent à éviter les tragédies passées comme la bousculade de 2015 qui avait fait quelque 2 300 morts.
Et à Gaza maintenant, la Fondation humanitaire de Gaza, organisme controversé, soutenu par les États-Unis et Israël, a fermé tous ses centres de distribution d'aide dans l'enclave. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nawel, cette décision intervient après plusieurs scènes chaotiques et meurtrières lors de distributions, marquées par la mort de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants à proximité des centres. Mardi encore, 27 personnes ont été tuées à Rafah, dans le sud de Gaza, lorsque des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule attendant l'aide humanitaire. L'armée israélienne affirme avoir tiré des coups de semonce en direction de suspects, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements. La Fondation humanitaire de Gaza, organisation controversée et au financement opaque, justifie la fermeture par des travaux de rénovation et une réorganisation, annonçant une reprise des distributions dès jeudi. Mais l'ONU et de nombreuses ONG refusent de collaborer avec la Fondation, mettant en cause sa neutralité et craignant qu'elle ne serve des objectifs militaires israéliens. Ce mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Mais ce texte risque de se heurter à un veto américain, malgré la pression internationale et la menace de famine qui pèse sur les 2,4 millions d'habitants de Gaza.
Et dans un tout autre volet, pris en étau entre le Pakistan et l'Iran, plus de 3 millions d'Afghans sont sous la menace d'expulsion massive. Alors que les départs forcés s'intensifient, l'ONU tire la sonnette d'alarme face à une crise humanitaire qui s'aggrave. On fait le point avec Arthur Claude Savoie.
En effet, Nawel, depuis le 1er avril, plus de 200 000 Afghans ont été contraints de quitter le Pakistan dans le cadre d'une campagne d'expulsion massive visant les 3 millions d'Afghans vivant dans le pays. Le Pakistan accuse ces migrants d'être liés à des réseaux terroristes ou à la contestation politique après plusieurs mois de tensions à ses frontières avec l'Afghanistan. Le rythme des départs s'est ralenti ces dernières semaines, lui qui avait atteint un pic en avril avec plus de 135 000 retours. Depuis début juin, c'est environ 1 500 personnes qui franchissent chaque jour la frontière. Un autre chiffre alarmant, le Pakistan a déjà annulé 800 000 titres de séjour et menace à présent de mettre fin à la protection de 1,3 million de réfugiés. Ces derniers sont pourtant reconnus par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Mais le Pakistan n'est pas le seul pays à intensifier ses expulsions. À l'ouest, l'Iran a donné jusqu'au 6 juillet aux 4 millions d'Afghans en situation irrégulière pour quitter son territoire. L'ONU note une évolution inquiétante. En effet, les renvois concernent désormais des familles entières et non seulement des hommes seuls. Le bilan, au total, depuis fin 2023, plus d'un million d'Afghans ont été expulsés du Pakistan et plus de 2 millions de l'Iran. Plus de la moitié des personnes sont forcées au retour, sont des enfants, selon les agences humanitaires. L'Organisation internationale pour les migrations et le HCR s'inquiètent d'un afflux que l'Afghanistan ne serait pas en capacité de gérer. Le pays dirigé par les talibans et non reconnu par la communauté internationale compte un tiers de sa population en situation d'insécurité alimentaire.
En France maintenant, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé devant les députés au sujet du meurtre de Hichem Mirawi. Pour rappel, cet homme de nationalité tunisienne a été tué à Puget-sur-Argent dans le Var ce samedi par un ressortissant français. Après le crime, le suspect a publié des vidéos racistes et a incité à tirer sur des personnes d'origine étrangère. Une affaire confiée au parquet national antiterroriste, Bruno Retailleau a dénoncé un crime barbare. On l'écoute.
C'est clairement un crime raciste. C'est un crime sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste puisque le PNAT a été saisi. Je veux le dire de la façon la plus nette. Le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. Et précisément, c'est un crime barbare, bien sûr. Et précisément, la France, c'est la République. Et la République ne fait aucune différence entre la couleur de la peau, les origines ou bien les croyances. Croyez-moi, je suis très heureux que le PNAT s'en soit saisi et j'espère que la justice sera intraitable et implacable pour ce qui constitue un crime anti-français. Chaque crime raciste est un crime anti-français.
Merci beaucoup. Et concernant cette affaire, Bruno Retailleau s'est rendu mardi à l'ambassade de Tunisie à Paris pour rencontrer l'ambassadeur Dia Khaled, l'ambassadeur qui a réagi au micro de François-Xavier de Calonne. On l'écoute.
Tout d'abord, je veux exprimer ma vive indignation quant à ce meurtre horrible du citoyen tunisien Hichem Mirawi, qui a été exécuté, rappelons-le, de sang-froid par une arme à feu pendant le week-end à Puget-sur-Argent, au moment où Hichem était en appel avec sa famille. Donc, je réitère encore une fois ma compassion avec la famille de Hichem, ses amis, ses proches, et tous ceux qui ont connu Hichem savaient que Hichem était très bien intégré dans son environnement, là où il était. Et c'est un acte, honnêtement, qui a provoqué une forte émotion en Tunisie et auprès des Tunisiens en France et auprès de tous ceux qui ont connu Hichem.
Et vous le soulignez, hein, c'est un homme qui était particulièrement apprécié dans la ville dans laquelle il vivait.
Oui, c'est vrai, oui. Mais je saisis aussi cette occasion de cette interview avec vous et cet échange que nous avons toujours établi entre l'ambassade de Tunisie et Radio-Orient pour aussi souligner que et saluer la réactivité des autorités françaises qui étaient très rapides. Ils ont pris les choses en main. Comme vous l'avez entendu, bien sûr, l'auteur de ce crime odieux, raciste, a été arrêté après quelques heures. Et maintenant, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. C'est un développement que nous considérons très important. Et fort probablement, l'acte sera qualifié d'acte terroriste parce que la saisine par le parquet s'est faite, à mon avis, et selon ma lecture, sur la base des vidéos qui ont été circulées par l'auteur du crime avant et après l'acte qu'il a commis.
Et suite à ce crime, il y a eu des échanges au plus haut niveau des deux États français et tunisiens.
Oui, oui. Moi, j'étais en contact avec le ministère de l'Intérieur quelques heures après qu'on a pris connaissance du crime et on a vérifié l'identité de Hichem, on a confirmé qu'il est bel et bien tunisien. J'ai eu une rencontre très longue, une réunion de travail avec le cabinet de Monsieur le ministre Retailleau et j'ai eu deux échanges téléphoniques très longs, échanges téléphoniques avec le ministre Retailleau lui-même qui s'est rendu hier à l'ambassade de Tunisie pour réitérer sa vive condamnation, la forte condamnation par la France de cet acte odieux, de ce crime raciste et terroriste.
C'était l'ambassadeur de Tunisie à Paris, Dia Khaled. Il était une figure de la presse française, mais pas seulement. Philippe Labraud est mort. Il avait 88 ans. François-Xavier de Calonne, vous revenez sur son parcours.
Oui, vous l'avez dit, il n'était pas seulement une figure de la presse. Philippe Labro, journaliste de Presse Écrite, ancien vice-président de RTL, était aussi auteur de romans à succès, cinéaste ou encore parolier de chansons. Il en écrira une trentaine, rien que pour Johnny Hallyday. Fasciné par les États-Unis où il a étudié, Philippe Labro tirera de cette expérience la matière de deux romans autobiographiques, L'étudiant étranger, lauréat du prix Interallié en 1986 et Un été dans l'Ouest en 1988. Un roman dans lequel il raconte son voyage et ses rencontres dans l'état du Colorado. De retour en France en 1957, il intègre la radio Europe 1, puis devient un grand reporter à Marie-France, puis à France Soir. Il est parallèlement collaborateur du magazine télévisé 5 colonnes à la une. Philippe Labro aura donc aussi été une figure de RTL, dont il sera vice-président en 1992, vice-président directeur général dédié Radio RTL en 1996, et vice-président du conseil d'administration en 2000. Philippe Labro a aussi fondé avec Vincent Bolloré la chaîne Direct 8. Il a aussi traversé des moments douloureux, une dépression au tournant des années 2000 qu'il racontera dans son livre « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Parmi ses maîtres, Philippe Labro évoquait Pierre Lazareff pour le journalisme, Jean-Pierre Melville pour le cinéma ou Ernest Hemingway pour l'écriture. Depuis l'annonce de sa disparition, une expression revient sur toutes les lèvres. Philippe Labro était un touche-à-tout aux mille vies.
Merci beaucoup d'avoir suivi notre tour d'horizon de l'actualité. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.